Qu'est-ce qui se passerait si Saddam Hussein venait se faire couper les cheveux ici et la moustache?
Ear to ear.
D'une oreille à l'autre.
Straight razor.
Un coup de rasoir.
Et voilà, on dresse la croix avec des cordes, et voilà Jésus, oh, les clous dans les mains, les clous dans les pieds. Il a un clou dans chaque pied, ou un seul clou pour les deux pieds? C'est toujours la question qu'on se pose. Et voilà Jésus. Et mon téléphone sonne à ce moment-là. Eh, c'est un miracle, ça, non? Les gens sont très touchés. Vous entendez le vent? Vous entendez le vent? Vous entendez mon portable? C'est mon bureau qui m'appelle de Paris. Et Jésus est sur sa croix.
Bonjour Daniel Mermet. Mon nom c'est Marc Haglund. Tu peux parfaitement laisser mon nom, ça m'est complètement égal. C'est bien la première fois que je vais cesser d'écouter une émission de là-bas, si j'y suis. Je suis profondément chrétien et catholique et je suis outragé par ce que j'entends sur le Jesus Land à Orlando. C'est quelque chose de complètement gerbant. J'espère que beaucoup de gens entendront ça et qu'ils se formeront une opinion aussi définitive que moi sur les Américains qui, non contents de bombarder le monde avec leurs bombes et de massacrer des milliers, des centaines de milliers d'innocents, pourrissent la révélation qui est au centre de la vie de beaucoup d'entre nous. Salut Daniel.
Salut Daniel Mermet. J'écoute avec intérêt les problèmes de relation entre les évangélistes et les juifs d'Israël. C'est pas nouveau. J'ai des membres de ma famille qui sont pentecôtistes et ça fait 15 ans que ces gens-là entretiennent des relations constantes avec des rabbins en Israël et en France, font des voyages en Israël et sont, totalement hermétiques à la cause des Palestiniens. Salut.
Un clou, vite je glisse.
Je t'appelle, moi je suis un athée anarchiste et ma femme est une chrétienne anarchiste et nous avons entendu ce reportage absolument atterrant et notamment cette fille qui s'appelle Wafa et qui dit, je la cite, que business et Jésus c'est la même chose. Donc comme on est à Pâques, je vais lire un extrait de l'évangile selon saint Jean. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs assis. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du temple et les brebis et les bœufs. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et aux vendeurs de colombes, il dit, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Autre citation de l'évangile de Saint-Luc, qui dit, comme il est difficile à ceux qui ont des richesses de pénétrer dans le royaume de Dieu, où il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, je suis pour le christianisme anarchique. Salut.
Voilà, parole d'évangile dans la basse, j'y suis au 01 56 40 37 37. C'est le répondeur de la basse, j'y suis, qui nous permet d'écouter ceux qui nous écoutent. Le Jésusland, le Holy Land Experience, ce parc d'attractions, qui a pour héros principal Jésus-Christ lui-même, vous a quand même un petit peu étonné, même si les États-Unis, l'Amérique nous étonnera toujours, mais là quand même, cette crucifixion, deux fois par jour, dans ce parc d'attractions, ça vous a un tout petit peu étonné, et c'est étonnant que ça vous étonne, et ça montre bien le fossé culturel qui peut exister entre les États-Unis et nous, et ce qui est la raison du voyage que nous continuons aujourd'hui vers Bagdad, mais pas Bagdad de Bagdad, l'autre Bagdad qui s'appelle aussi Bagdad, mais qui est en Floride, au nord-ouest de la Floride, à la limite de l'Alabama, 1500 âmes, c'est la route que nous nous empruntons à nouveau aujourd'hui une route qui va passer par New York. Mais d'ici là, d'autres messages sur le répondeur de la base. J'ai ici au 01 56 40 37, des messages concernant d'autres émissions et des choses bien diverses.
Daniel, c'est Isabelle, professeure sur l'île de la Réunion. Après et avec Bordeaux, Montpellier et Marseille, on se bat à la Réunion. Sur l'île de la Réunion, depuis le 3 avril, le système scolaire est bloqué. De manif en grève reconductible, le personnel de l'éducation nationale exprime son désaccord concernant le projet de décentralisation de l'éducation nationale. À l'heure de l'accord général sur le commerce et les services, nous allons vers la privatisation du service d'éducation avec toutes les inégalités que cela suppose. Pour plus d'informations, tu pourras te reporter au rapport du Conseil d'État sur la fonction publique. Tu peux aussi te reporter au site des journaux locaux. Exemple, le journal de l'île de la Réunion sur le site Clicanoo. clicanoo.fr. Nous étions lors de la dernière manifestation jeudi 4 avril, nous étions 20 000 à manifester dans les rues de Saint-Denis. Merci de passer ce message, Daniel.
Bonjour Daniel, je voudrais réagir aux propos d'un auditeur qui méprisait un électeur du Front National parce qu'il parlait mal. En effet, il disait qu'il croive au lieu de qu'il croit. Et il était écœuré qu'il puisse voter. Ben alors à mon tour, je suis écœuré, déçu qu'un de tes auditeurs n'ait pas la moindre compassion pour ceux ou celles qui n'ont pas eu la chance, sans doute pour des raisons sociales, d'accrocher avec le système scolaire. Et je lui dis à cet auditeur, attention camarade, si on suit ton raisonnement, il faudra avoir le bac pour avoir le droit de vote, et puis après ce sera la licence, la maîtrise aussi. Ah mais peut-être que là tu l'as pas et peut-être que tu pourras plus voter. On s'arrêtera où, camarade ? Les dérives discriminatoires, ça commence là. Voilà. Salut Daniel et merci.
Électeurs en quête de dictateurs. Un dictateur, c'est la somme de toutes nos lâchetés. Vous, les petits, les obscurs, les sans-grades, votez pour moi. Oui, bien sûr, nous les petits, bien soumis, avec nos petites haines obscures, sans-grades, oui. Mais tous ensemble, nous pouvons dominer le monde en donnant le pouvoir total au dictateur qui va le gouverner pour nous si nous acceptons de fusionner avec lui, le suprême, qui nous venge de toutes nos humiliations. Électeur en quête de Dieu.
President Bush will go down as one of our great presidents along with Abraham Lincoln in Washington.
On se souviendra de George Bush comme un des plus grands présidents des États-Unis, à côté d'Abraham Lincoln et George Washington.
Look at the cabinet. It's,
non, regardez-moi ce gouvernement.
It's military, what is it, to build military arms, energy, and oil. That's the whole cabinet. War, oil, and energy.
La guerre, le pétrole, l'énergie, voilà, c'est notre gouvernement.
That's it.
The war is all about oil.
La guerre en Irak, c'est le pétrole.
His father owes money to the Arabs.
Mais quoi, son père doit de l'argent aux Arabes.
One question. Listen to this. Osama bin Laden is from Saudi Arabia, right? Now, previous to the Bush becoming president, Bush's oil company wanted to do business with the Taliban. So they have pipeline in Afghanistan.
Avec les talibans. Ils avaient un pipeline en Afghanistan.
And the Taliban said, right?
Et les talibans leur ont fait un bras d'honneur.
Right. Okay. Now, he becomes president, and then we go to war with him.
Et maintenant, il est président, il va aller en guerre contre eux.
Bad Afghanistan. Now you must feel
pas bien l'Afghanistan, pas bien.
Now
maintenant, tu vas voir un coup de
fouet. Ah bah, les Américains vont lui apprendre l'heure. Tiens, rapidité, rapidité. Oh.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Medford et Guy Ventil. Là-bas, si j'y suis, Bagdad de Florida.
Flight number 2. Arriving from New York.
Allô, allô. Allô, Paris. New York. Allô, New York. Allô, allô.
All these mothers have children who are over there. They don't necessarily know where they are.
Ils savent pas forcément où est-ce qu'ils sont, mais toutes les mères qui sont ici ont des enfants qui sont au front.
Là, on est dans le local du Marine Corps League de Staten Island. Et c'est une cérémonie émouvante ce soir parce que c'est les familles qui ont des garçons
Pas forcément des garçons d'ailleurs, hein. Ça peut être des filles aussi qui sont incorporées dans les Marines. Il y a une ambiance qu'on peut imaginer, quoi. C'est l'ambiance drapeau américain. Ah, voilà la photo, son fils.
C'est son fils.
Lieutenant Nicholas Griffiths.
He's somewhere in Iraq. I don't know where. He was just deployed this week.
Il est en Irak quelque part. Il a juste été déployé cette semaine.
So I know that he's there, but he couldn't tell me his destination.
Je sais qu'il est là-bas, mais il ne pouvait pas me dire quelle était sa destination.
Right. And I just want him and all the servicemen to come home safe.
Et je voudrais que lui et tous les autres rentrent à la maison.
I try to just look at the news in the morning and at night because otherwise it's just too overwhelming.
J'essaie de regarder la télévision que le matin et le soir parce que sinon c'est trop prenant.
The first thing I thought was, is my mask on right?
I was scared. I wanted out. I didn't want to finish it. I couldn't breathe.
Nous aussi, nous sortons de la bouillie hypnotique dans laquelle nous nous sommes laissés engluer pendant des semaines et des nuits par la télé, avec cette guerre en Irak, cette guerre. Et nous partons pour un périple en Amérique sur la route de Bagdad, de Florida, ce petite bourgade de la Floride, à la limite de l'Alabama. Et là, on passe par New York et on passe plutôt par un quartier de New York qui s'appelle Staten Island, qui est une île, comme vous vous en doutez. Et pourquoi ? Parce que là, il y a un local des vétérans, des Marines, où ce soir, les familles de ceux qui ont des enfants, des filles ou des garçons là-bas, se réunissent pour s'encourager par solidarité. Pour aller à Staten Island, c'est un itinéraire fabuleux, parce que c'est la grande carte postale. On part avec le ferry. Et de l'arrière du ferry, eh bien, on voit Manhattan, on voit à gauche la Statue de la Liberté. Vous connaissez mille fois, vous avez vu ce panorama et ce paysage. Sauf que pour ceux qui connaissent bien la pointe de Manhattan, il manque quelque chose. Il manque évidemment les deux tours jumelles. Et tout part de là, pense-t-on, puisque cette guerre et ces Marines qui sont en Irak, eh bien, n'y seraient pas si les deux tours étaient toujours là. C'est au moins comme ça que les choses sont présentées. Il y a quelque chose de particulier sur cet itinéraire que nous prenons aussi, c'est que les gravats, les restes du World Trade Center ont été transportés par bateau, par barge, jusque sur cette île de Staten Island. Et pendant des mois durant, eh bien, on a continué les fouilles dans les gravats et dans les restes des deux tours jumelles, à la recherche d'objets, de choses diverses et variées, dont des particules, des parcelles de corps humains. Staten Island, c'est un de tous les boroughs autour de qui constituent New York. C'est l'endroit un petit peu dépeuplé, disons, un petit peu plus, dont on parle moins en tout cas. Et c'est pas très étonnant qu'on rencontre là un local de Marines, parce que les Marines sont bien souvent aujourd'hui recrutés parmi des gens ordinaires, comme on dit, des gens de peu. On va trouver pas mal d'hispaniques, on va trouver pas mal d'Africains américains parmi les Marines, des gens qui s'engagent afin de d'avoir un boulot dans la vie. Certains espèrent en tirer un certain statut social. On s'est rendu dans un bureau de recrutement dans Harlem, 125e rue. On peut pas dire que ça se précipitait beaucoup, que les jeunes du quartier se précipitaient beaucoup. On peut noter au passage que les recruteurs étaient mécontents de ce que les collèges refusent leur présence dans les établissements, eux qui ont pour mission, grande mission patriotique, de recruter des jeunes garçons et des jeunes filles pour devenir Marines. C'est pas forcément aussi flatteur et aussi héroïque qu'on le croit, ce corps des Marines. Ceux qui y sont passés n'ont pas forcément gardé le souvenir qu'on nous raconte un peu trop souvent de ce côté-ci de l'Atlantique. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, eh ben c'est un moment émouvant de familles qui disent et qui répètent: nous soutenons les troupes. we support our troops, ça ne veut pas dire pour autant qu'on soutient inconditionnellement la guerre ni la politique de George W. Bush.
These first days at Marine boot camp will never be forgotten. An amazing transformation is about to take place. These young people will be molded into Marines.
I'm your senior drill instructor.
I'm your senior drill instructor.
Discipline and spirit are the hallmark of a Marine.
These qualities are the goals of your training here.
Every recruit, whether you're fat or skinny, tall or short, fast or slow, can become a United States Marine. If you can develop self-discipline and spirit.
You must give 100% of yourself at all times.
We take every effort to train you, even after some of you have given up on yourselves.
Be proud of yourself and that uniform you wear.
You must do everything you're told to.
Yes, sir!
Ah, voilà, on est en train de faire des rubans jaunes, parce que le ruban jaune, c'est le signe du soutien aux troupes. On est entre le petit drapeau américain qu'on agite et le ruban jaune, et tout le monde se fait des rubans jaunes et des nœuds jaunes.
Custom, like there was a song about a yellow ribbon, and like you display it until they come home safe. You hang up your yellow ribbon on the tree or on your door. Like I have one on my door, and when they come home safe, that's when you take it down.
Il faut faire un nœud avec le ruban jaune. Ça vient d'une chanson. On l'accroche à la porte ou on l'accroche à un arbre, et quand ils reviennent à la maison, on peut enlever le ruban jaune.
Voilà les photos.
C'est ma fille. Elle est dans les Marines.
Elle est dans les Marines. C'est la première fois qu'elle part aussi loin.
Oh yes,
vous n'êtes pas trop inquiète?
Yes, I worry.
Wish not yet.
But she's a strong woman. She'll be all right.
Mais elle est forte. Je pense que ça va aller bien pour elle.
I'm very proud of my baby.
Je suis vraiment fière de mon bébé.
Mais est-ce que vous êtes fière qu'elle soit là-bas?
I support her 100%. Whatever she likes. Yeah.
Je la soutiens à 100% quoi qu'elle fasse.
Oh, take care, honey.
C'est votre fils qui est parti?
It's my son.
Ouais,
yes.
Mon fils. Ouais.
Quel âge il a?
21.
Il a 21 ans.
C'est jeune,
he
hein?
Left it when he was 18. 4 years he's there.
Il est parti quand il avait 18 ans. Ça fait 4 ans qu'il est dans les Marines.
Vous êtes fière?
Very proud.
Vraiment très fière.
Very scared.
Et j'ai vraiment peur.
I never get to hear his voice.
Je n'entends jamais sa voix.
I don't know who's with him.
Je ne sais pas qui est avec lui.
His room is empty.
Sa chambre est vide.
No friends coming in and out.
Il n'y a plus ses copains qui viennent, qui repartent.
He's an only child.
C'est mon fils unique.
Very hard. Very, very, very hard. Very proud.
Vraiment dur, mais très fier.
Comment il s'appelle?
Jesse.
Jesse.
But if you complete the journey, you will find your destiny among the world's greatest warriors. The few, the proud, the Marines.
Yay! Okay, on a cold day like today, bless your hearts, we need your warmth.
Alors ça, c'est le cercueil international là-haut, du droit international. Ça, c'est le cercueil.
The next banner, ceux qui sont déjà morts.
De ceux qui sont déjà morts. Ça, c'est le cercueil.
De la fin des libertés civiles et des politiques étrangères de violence.
Et là, c'est le cercueil d'enfants. Il n'y a pas de commentaire. Ça, c'est le cercueil.
La fin des programmes sociaux.
Ça, c'est le cercueil des civils victimes de la guerre. Et ça, c'est le cercueil des combattants. Bonjour. Vous manifestez, vous êtes en train de porter ce cercueil de carton.
Yes, this is the anniversary of the death of Martin Luther King.
Ça, c'est aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de Martin Luther King.
We're marching to commemorate that a year before he died, right there in Riverside Church.
Un an avant sa mort, juste ici de l'autre côté, là, à l'église de Riverside Church.
He preached a sermon against the Vietnam War, and we're.
Il a fait un discours contre la guerre au Vietnam.
I'm convinced that if we are to get on the right side of the world revolution, we as a nation must undergo a radical revolution of values. We must rapidly begin to shift from a thing-oriented society to a person-oriented society. When machines and computers, profit motives and property rights are considered more important than people.
Discours de Martin Luther King le 4 avril 1967 où il dit qu'il est, c'est son grand discours contre la guerre du Vietnam, son premier grand discours contre la guerre du Vietnam où il déclare qu'il se considère comme convaincu que si les États-Unis sont du bon côté de la révolution mondiale, en tant que nation, nous devons passer, dit-il, par un renversement radical des valeurs. Passer rapidement d'une société où les machines, les ordinateurs, la course, on est en 1967, la course au profit et à la propriété sont considérés comme plus importants que les gens, à une société où la finalité est la personne humaine. On voit que le monde n'est pas une marchandise. C'était en 1967 dans la bouche et dans les idées de Martin Luther King. On est donc ce 4 avril dernier dans Harlem, au niveau de la 125e rue, devant Riverside Church, l'église dans laquelle il a prononcé ce discours. Et là, une petite manifestation a lieu. Des gens se sont réunis autour de ces cercueils en carton. Et c'est une manifestation, évidemment, contre la guerre. Petite manifestation, c'est vrai, mais d'autant plus valeureuse et d'autant plus touchante, qui fait suite quand même à de très importantes manifestations à travers les États-Unis qui se sont produites contre cette guerre. Il faudra jamais oublier ça, hein, quelle que soit la suite de cette histoire. Il faudra pas seulement oublier les grandes manifestations à travers le monde entier contre cette guerre, mais aussi les manifestations contre la guerre à l'intérieur même du pays.
A nation that continues year after year to spend more money on military defense than on programs of social uplift is approaching spiritual death.
Et voilà, là derrière, il y a une pancarte qui indique que c'est le 4 avril 1967. 4 avril 1967 que Martin Luther King a rompu le silence à propos du Vietnam. Commemorating Dr. Martin Luther King Jr. Et voilà, toute une petite manifestation, un petit cortège qui porte des étendards noirs là-bas de deuil, en signe de deuil. Et ces cercueils qui sont portés, on est à New York, c'est tout de suite mis en scène. Des œillets blancs au revers, des pacifistes, et ils ressemblent à Mouna. Ça fait du bien, ça. Au moins on n'a pas l'impression de regarder Fox News.
Out front of a diplomatic bombshell for Saddam Hussein. You blew your final chance.
Alors d'autres résistants à cette guerre, dissidents, peaceniks, comme on les appelle. Voilà, Dawn Peterson. Dawn Peterson, c'est une jeune femme qui appartient à un petit mouvement, petit regroupement, qui s'appelle September 11 Families for Peaceful Tomorrows. Et elle appartient donc à un groupe de familles qui ont une victime dans les tours, qui ont une victime dans les tours dans l'attentat du 11 septembre, mais qui refuse que cet attentat serve de caution au va-t-en guerre, et qui s'oppose à la guerre au nom même de ses victimes. C'est une rencontre avec donc cette jeune femme dans un bistrot du village.
I really was reluctant in the beginning to speak out as a family member.
Au départ, j'étais vraiment réticente à parler en tant que membre d'une famille du 11 septembre.
Just I didn't know if I wanted to engage in that personal way against the war.
J'étais pas sûre de vouloir m'engager à un niveau aussi personnel.
But then I came across September 11 Families for Peaceful Tomorrows and started to talk to them and realized that this was a very effective way to get.
Et après, j'ai rencontré cette association des familles du 11 septembre pour des lendemains pacifiques et je me suis dit que
trouver une façon efficace de faire passer notre message.
Il faut dire que vous avez perdu un de vos proches.
Yes, my brother was killed on September 11th.
Oui, mon frère est mort le 11 septembre.
And I think to me it's very clear that the war being sold is full of empty rhetoric.
Et pour moi, c'est vraiment clair que la guerre que nous présente le gouvernement, c'est une rhétorique vide.
And the war that's being waged is in fact about corporations, it's in fact about oil, it's in fact about the maintenance of the hegemony of the US government.
Et la guerre qui se passe vraiment sur le terrain, pour moi, c'est une guerre qui concerne des grandes entreprises et l'hégémonie américaine dans le monde.
And then, for example, who is actually going to get to rebuild Iraq? And you look at now, the UN is actually being squeezed out by the United States.
Et par exemple, quelles sont les entreprises qui vont profiter de la reconstruction de l'Irak? Les Nations Unies ont déjà été plus ou moins éliminées de ce processus.
Est-ce que vous vous sentez fidèle à votre frère en faisant ça, votre frère qui a été victime du 11 septembre? Parce qu'on a tellement parlé de cet élan patriotique américain. On vous a imaginé pendant des mois et des mois tous en train d'agiter des petits drapeaux.
We do oftentimes get that question of where is your loyalty. We get it from people who are specifically pro-war.
De temps en temps, on nous pose la question de la fidélité aux victimes, et c'est une question que nous posent surtout les gens qui sont en faveur de la guerre.
But I feel like that falls right in line with the sort of blind acceptance of empty rhetoric.
Mais ça, pour moi, c'est faire le jeu de l'acceptation aveugle de cette rhétorique vide du gouvernement.
Dan, est-ce que vous pouvez dire ce que vous dites là partout, n'importe où, aujourd'hui?
Well, I say it to as many people as well.
Bah moi, en tout cas, je le dis à autant de gens que je peux.
I mean, I know that there have been, for example, I was reading yesterday that there were 7 people.
Je lisais hier, par exemple, que 7 personnes
that hung an American flag upside down in their window.
Que 7 personnes qui ont accroché des drapeaux américains à l'envers à leur fenêtre.
Ah, à l'envers, en retournant le drapeau upside down.
And in fact, they were threatened countless times for hanging the flag upside down.
Et ils ont reçu des menaces simplement parce qu'ils avaient accroché des drapeaux à l'envers.
The upside down American flag means a symbol of distress. It's not necessarily anti-patriotic, it's a symbol of distress.
Et accrocher le drapeau comme ça, c'est un symbole de détresse, c'est pas un geste anti-patriotique.
Amsterdam Avenue et 113 rue.
On est passé au sud de l'Université de Columbia là.
Et on est dans cette manifestation avec ces cercueils de carton noir portés sur les épaules avec gravité, hein. C'est grave. Et devant nous, il y a une dame et un monsieur qui portent le symbole d'un cercueil d'enfant blanc, dans lequel il y a un œillet jaune qui est posé avec écrit Child. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui?
Because I believe in peace and I feel that the Bush doctrine of preemptive strikes.
Et je crois que la doctrine de Bush de guerre préventive
will really lead to greater destabilization in the world.
Va amener encore plus de déstabilisation dans le monde.
It will have an absolutely opposite effect of protecting us. It will cause people to have more fear.
Et le résultat final, ça va être l'inverse de nous protéger. Ça va créer plus d'anxiété.
And it says to our children that those who are more powerful.
Et à nos enfants, on est en train de dire que ceux qui sont les plus puissants
have the right to destroy those who are less powerful.
Ont le droit de détruire ceux qui sont moins puissants qu'eux.
It's a terrible,
et ça, c'est vraiment
immoral lesson.
C'est une leçon qui est terrible et qui est immorale.
I think that the government has used terrorism to really convince people that there's something that they really need to be afraid of. There's something they need to be protected from.
Le gouvernement est en train d'utiliser le terrorisme pour faire croire aux gens qu'il y a quelque chose dont ils doivent vraiment se protéger.
And so I think because of they've conflated September 11th and leadership in Iraq.
Et ils ont créé cet amalgame entre le 11 septembre et le gouvernement irakien.
Ce que vous faites, Dan, c'est que vous essayez de désamalgamer.
And I think the most important thing is to understand how things fit into history. We cannot dehistoricize and empty things out in terms of putting them.
Et pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir une perspective historique. On ne peut pas retirer les choses de leur contexte historique.
And so I think that what the U.S. government is so good at doing is ignoring history and therefore creating immediate conflicts that need immediate resolution.
Ce que le gouvernement américain a fait si brillamment, c'est d'essayer d'oublier l'histoire.
For example, the fact that we actually trained Osama bin Laden, the fact that we
qu'on a entraîné Osama bin Laden.
We put Saddam Hussein in power in the 80s.
Que c'est nous qui avons mis Saddam Hussein au pouvoir.
And so now we say these people are huge problems.
Et maintenant on est en train de dire que ces gens nous posent problème.
But when in fact we use fundamentalists to counter fundamentalists.
Alors qu'on a utilisé les fondamentalistes pour faire pression contre le fondamentalisme.
Mm-hmm. une nation qui continue, année après année, à dépenser plus d'argent pour son armée que pour des programmes d'aide sociale, n'est pas loin de sa mort spirituelle. Ainsi parlait Martin Luther King le 4 avril 1967. Et ce 4 avril 2003, dans les rues de Manhattan, entre la 125e rue, Riverside Church et Times Square, eh bien, on suit cette petite manifestation avec ce marching band, ces musiciens qui sont en tête du petit cortège. Il y a une ombre, il y a un spectre qui hante aujourd'hui l'Amérique, c'est le spectre du Vietnam. Tout le monde a ce Vietnam en tête. Vous rappelez que 54 000 États-Unis sont morts lors de ce conflit qui fit on ne sait combien de morts du côté vietnamien, mais le chiffre le plus fréquemment avancé est celui de 3 millions de morts côté vietnamien, 54 000 du côté des combattants des États-Unis, mais il y a ce chiffre extraordinaire qui est celui de 50 000 hommes revenus du Vietnam, 50 000 se sont suicidés dans les mois et années qui ont suivi la fin de la guerre du Vietnam. Il faut rappeler qu'un tiers des sans-abri aux États-Unis sont des vétérans du Vietnam et qu'on trouve toujours dans des régions éloignées, isolées, des gens, des hommes qui sont redevenus des hommes sauvages, comme on dit, c'est-à-dire qui ont préféré retrouver une vie dans la nature pour oublier les horreurs, la hantise et ce traumatisme terrible qu'a été la guerre du Vietnam. Alors bien sûr que ça, c'est présent dans les esprits, pas forcément dans les nouvelles et pas forcément dans les chaînes de télévision américaines, à commencer par Fox News, mais on peut évoquer les autres aussi. En tout cas, c'est très très présent dans les esprits et au cœur même de cette manif qui chemine le long de Central Park.
Right now, there's no good guys. Saddam's bad and Bush is bad.
Maintenant, il y a pas de mec bien. Saddam est mauvais et Bush est mauvais
and
aussi.
And we're going to kick Bush's ass out of the Oval Office next year when he runs for president.
Et l'année prochaine, on va donner des coups de pied au cul de Bush pour le faire sortir de son bureau.
Hey, vous étiez au Vietnam. Vous êtes un vétéran du Vietnam.
Oui,
yes, I was in the Navy from 1964 to 1968.
Oui, j'étais dans la marine de 1964 à 1968.
And so when I got out in 68. And I saw the Tet Offensive on television.
Et alors quand je suis parti en 68 et que j'ai vu l'offensive de Tet à la télévision,
January 68,
en janvier 68,
and I heard Walter Cronkite,
et j'ai entendu Walter Cronkite qui était le présentateur à la télé,
on Channel 2 say we should declare victory and leave and say we did the best we could.
Quand j'ai entendu dire on devrait déclarer la victoire et dire voilà, on s'en va, on a fait le mieux qu'on pouvait.
And that's when most people in America started to turn against the war.
C'est à ce moment-là que la plupart des gens en Amérique se sont retournés contre la guerre.
Dans les manifestations, je me souviens qu'on disait, hey Lyndon Johnson, combien tu as tué d'enfants aujourd'hui?
Hey, hey, yeah, we got a new one now.
On a
hey,
un nouveau maintenant.
Want to hear it?
Vous voulez l'écouter?
You ready for it?
Ouais.
This is the new one, right? Hey Bush, what do you say? How many kids did you kill today?
Hey Bush, qu'est-ce que t'as à dire? Combien d'enfants t'as tué aujourd'hui?
Hey Bush, what do you say? How many kids did you kill today?
See you, Mom, American, across the seas.
Baptiste de Mobile, dans le quartier noir de Mobile. Il y a beaucoup de monde pour les funérailles de Howard Johnson II. Howard Johnson II, le fils de Howard Johnson. C'est important de dire de faire la différence parce que Howard Johnson II, c'est un garçon, un jeune garçon de 21 ans, Marines, qui est mort en Irak et aujourd'hui c'est ses funérailles. Et son père, Howard Johnson, est le pasteur de la paroisse où on se trouve. Et c'est toute la communauté noire de cette ville d'Alabama qui est là aujourd'hui. On s'est fait élégant et on regarde en direction de l'autel sur lequel est posé le cercueil avec des fleurs, des bouquets, des couronnes, par exemple des fleurs qui représentent le drapeau américain. On soutient les troupes même si c'est une guerre qu'on voulait pas faire.
Alors voilà, on est à Mobile, en Alabama, donc on est descendu jusqu'à Pensacola, au nord de la Floride. Et là, on est dans cette petite ville de Mobile, une ville du sud, du vrai sud des États-Unis, où aujourd'hui, en effet, c'est les funérailles de Howard Johnson II, le fils du pasteur Howard Johnson. Howard Johnson, le fils, était Marines. Il est mort et aujourd'hui, donc, c'est la cérémonie dans ce quartier noir, dans le quartier noir de Mobile, Alabama. On a demandé à l'hôtel où se trouvait ce quartier, où se trouvait la rue, ça nous poursuit, Martin Luther King, et on a tout de suite eu peur pour nous dans l'hôtel. On dit, oulala, vous pouvez pas y aller tout seul, il faut vous faire accompagner. C'est le quartier noir. Quelque chose est resté du temps, des temps anciens, de la ségrégation dans cette région. Et donc, on assiste à ces funérailles. Il faut rappeler au passage que selon les sondages, avec toutes les, on prend toujours ça avec des pincettes, mais les Africains américains, comme on dit aujourd'hui, les Noirs nord-américains, sont largement opposés, très largement opposés à cette guerre. Il n'y a que à peine 30% de cette population qui soutient cette guerre, ce qui n'était pas le cas lors de la première guerre du Golfe. Donc voilà ce moment évidemment très intense dans cette petite ville de Mobile, Alabama.
Et maintenant, c'est le père qui va parler. C'est le père du garçon qui est dans ce cercueil, Robert Johnson. Et le père est le pasteur de cette église. Jamais son église n'a été aussi pleine, avec des personnages aussi importants que pour la mort de son fils. Il est en hauteur, c'est une scène extraordinaire, il est en hauteur devant un écran sur lequel une croix est projetée et en dessous de lui, il y a une veste rouge avec un drapeau américain dans sa pochette et en dessous de lui, il contemple, il peut voir le cercueil de son fils. Et à droite et à gauche, il y a les officiels, les militaires, il y a le sénateur, il y a le gouverneur, il y a toutes les personnalités de la ville ici de Mobile et de la communauté noire de Mobile et de cette église baptiste de Mobile. Et c'est sans doute le sermon le plus terrible que cet homme va faire.
And Lord, I'm still here, private, first class, Howard Johnson II. And I'm proud to say that. My son, my prince.
Mon fils, mon prince.
My hero.
Mon héros.
By his father and mother, when you make a commitment,
Non, René, non.
Mon fils se souvenait que ses parents lui avaient dit que quand on s'engage pour quelque chose, on doit se tenir à ses engagements. Howard était fier de faire partie de l'armée américaine. Il était fier d'être soldat. Howard avait signé un contrat pour commencer à étudier l'informatique. Il était à cette école pour étudier les technologies à Mobile. Il est allé le vendredi et le lundi ou le mardi, il avait rencontré un recruteur de l'armée. Le recruteur s'est aperçu que Howard s'était inscrit dans une école. Et il lui a dit que s'il faisait partie de l'armée, il pourrait aller à l'école et être payé pendant ce temps-là. Et Howard voulait trouver un boulot pour pouvoir aider sa famille et puis pour pouvoir même payer ses études. Il savait que s'il traînait à la maison, c'était pas comme ça qu'il aurait trouvé du boulot. Il était vraiment excité par toutes ces perspectives. Alors il m'a dit, papa, si tu es d'accord avec ça, c'est ça que je veux faire. Et donc je lui ai dit, mon fils, ça c'est une décision que tu prends toi, mais si, quelle que soit celle que tu prennes, je te soutiendrai. Il m'a dit, ça c'est ça que je veux faire, aller à l'armée, je veux passer le test. J'ai dit d'accord. Mais on était fiers quand on a vu ce jeune homme. Un jeune homme indépendant, responsable. J'ai essayé de retrouver une des premières lettres qu'il nous a envoyées après être arrivé là-bas. J'ai pas retrouvé cette lettre, mais dans cette lettre, ça disait quelque chose comme... Papa, je voudrais te remercier pour avoir été aussi dur avec moi, parce que maintenant j'ai compris que tu essayais de faire de moi un homme. Et je veux te remercier pour ça. Et je remercie le député qui a animé la messe. Continue à remercier les sponsors qui ont aidé à tout organiser.
Y compris Kentucky Fried Chicken?
Oui.
Et là, tout le monde se marre. C'est incroyable. Le mec, à l'enterrement de son fils, il fait marrer toute l'église en remerciant Kentucky Fried Chicken. Personne ne pourrait imaginer une chose pareille. On remercie les sénateurs, le gouverneur, le maire, les militaires, les officiers, les copains de combat de son fils, la police, le shérif, les médias. Il remercie les médias.
Il a remercié les médias d'avoir couvert la mort de son fils avec un tel temps à l'antenne que lui n'aurait pas pu le financer.
Et puis, il n'oublie pas de remercier Kentucky Fried Chicken.
Howard était volontaire pour rejoindre l'armée américaine. Je pense à ça comme au sacrifice d'Abraham qui était prêt à donner son fils. Il faut qu'on se pousse parce qu'il va faire passer le cercueil et donc ils vont enlever les chaises comme ça. Thank you.
ça, vous ne pouvez pas du tout imaginer que c'est un enterrement. C'est plutôt un repas d'enterrement dans les salles attenantes à l'église. Il y a un lunch qui est donné et il y a toute la communauté noire qui est là en train de manger des gâteaux, des grosses fraises énormes, du Pepsi-Cola. Tout le monde, c'est des chapeaux, c'est des rubans, c'est des œillets, c'est des embrassades, c'est de l'émotion. C'est des lunettes noires, c'est des cravates blanches, une chaise d'infirme. Et là, il y a le papa, le pasteur Johnson.
We had approximately 1,500.
Oui, on est à peu près 1,500 personnes aujourd'hui.
Our church has never been overfilled like this before.
Il n'y a jamais eu autant de monde dans notre église qu'aujourd'hui.
Jamais. C'est votre église à vous.
Yeah, I've been serving here as pastor for 20 years.
Oui, ça fait 20 ans que je suis le pasteur de cette église.
Ce matin, vous avez fait pleurer, vous avez fait rire.
Yes, I felt that the people were looking to me for spiritual strength.
Oui, j'avais l'impression que les gens attendaient de moi une aide spirituelle.
And I felt like if I could get them to laugh, it would loosen them up.
Et j'avais l'impression que si je les aidais à rire, ils se relaxeraient.
Et vous avez dit une chose surprenante. Vous avez évoqué Abraham. Pourquoi vous avez parlé d'Abraham ce matin?
When I look in the book at Abraham,
oui, quand je regarde dans la Bible,
and I saw Abraham offering his son Isaac.
Et je vois Abraham qui est prêt à offrir son fils Isaac.
Because the Lord told him to.
Parce que Dieu lui a demandé de le faire.
But then when I look at my son's situation,
mais après quand je prends en compte la situation de mon fils,
then I see him sacrificing his life without even knowing that he was giving his life for the good of a nation.
Et je le vois sacrifier sa vie pour le bien du pays sans même savoir qu'il est en train de faire un sacrifice.
Prior to, I felt like that we never should have gone to war. That's not war.
Alors d'abord, pour commencer, je considère qu'on n'aurait jamais dû aller dans cette guerre.
And then after we went to war,
une fois qu'on y est allé,
I did not think that we had a good definition of why we were in war.
Je pensais qu'on avait de toute façon pas une bonne définition de la raison pour laquelle on était en guerre là-bas.
On savait pas ce qu'on allait faire là-bas.
I don't think, at least the public don't know.
Au moins, en tout cas, le public ne sait pas.
If our government don't know, they haven't told us exactly why.
Si le gouvernement le sait, en tout cas, il nous a pas dit pourquoi on allait là-bas.
No. I feel like that whatever they are trying to resolve could have been so done without the lives of our young men and women.
Et maintenant, tout ce qu'on a à résoudre là-bas, de toute façon, je pense qu'on aurait pu le résoudre sans sacrifier des vies de jeunes hommes et de jeunes femmes.
I have always supported the troopers, their families, but I have never supported the war.
J'ai toujours soutenu leurs troupes et leurs familles, mais j'ai jamais soutenu la guerre.
And I still feel that same way.
Et depuis la mort de mon fils, je pense toujours de la même manière.
Donc, vous pensez que votre fils est mort pour rien?
To this point, I do.
Oui, je pense.
Révérend, si on faisait un sondage ici, dans la salle, si on faisait un sondage, quel serait le pourcentage de personnes qui seraient d'accord avec vous sur la guerre?
Je pense que quasiment tous les gens qui étaient là aujourd'hui seraient d'accord avec ça.
Now, there are some who must be loyal to their chieftain.
Mais il y en a certains qui sont obligés d'être loyaux à leur chef, à leur commandeur.
But in their heart, I believe they realize.
Mais au fond du cœur, je suis sûr qu'il réalise qu'on aurait pu faire ça autrement.
Ça veut dire que vous pensez qu'on aurait dû laisser les Nations Unies jouer leur rôle?
Yeah, I think that we should have had a decision made by the United Nations collectively.
Je pense qu'on aurait dû laisser les Nations Unies prendre une décision collective plutôt que d'avoir une seule personne qui dise maintenant entrons en guerre.
Because see, even in the war, we have mixed emotion and we have split decisions. And that's not bad, and that's not good.
Parce que même alors qu'on est en situation de guerre, il y a des sentiments mélangés dans ce pays.
Révérend, ça veut dire que quelqu'un qui, comme vous, porte un drapeau américain au revers, quelqu'un qui met des rubans jaunes dans les arbres ou chez lui, c'est quelqu'un qui est loyal, qui soutient les troupes, mais qui n'est pas forcément pour la guerre.
No, it doesn't.
Non, pas du tout.
No, it doesn't. It means that we wear this because it's the proper thing to do.
Ça veut dire qu'on fait ça parce que c'est la chose à faire.
Right. But not because I'm in support of the war.
Mais pas du tout parce qu'on soutient la guerre.
Again, my heart goes out, as I said, to all the troopers and their concernees. I'm not in support of the war.
Je pense du fond du cœur aux troupes, mais je ne soutiens pas la guerre.
Thank you.
Merci à tous, merci au pasteur Howard Johnson de Mobile. Cette phrase extraordinaire qu'un homme peut prononcer, mon fils est mort pour rien, je vois sa silhouette, avec un melon blanc, une veste rouge sang de bœuf, un pantalon blanc et des chaussures noires vernies, silhouette du sud, classique. C'est un pasteur, tout simplement. Merci à tous et à toutes, Guillemette Faure, à Dan Peterson, aussi l'association des familles du 11 septembre pour les lendemains pacifiques. Montage Guy Van Til, technique aujourd'hui Clotilde Thomas et Pascal Baldassari. Assistante Joël Levert, le répondeur c'est Christophe Imbert qui en a la charge. Et le numéro du répondeur c'est le 01 56 40 37 37. Choix musicaux, Koy Nguyen et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.